Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir le conflit à Air France, la compagnie engluée dans un feuilleton de grève par intermittence depuis le 22 février. Elle a dû annuler au moins un quart des vols à chacun des 11 jours de grève, occasionnant une perte estimée à près de 300 millions d'euros. La facture pourrait encore s'alourdir. 4 nouveaux préavis ont été déposés par l'intersyndicale, pilote en tête, pour les 3 et 4 mai, puis les 7 et 8 mai. C'est une fuite en avant, selon la direction. Elle a lancé hier une consultation auprès des 46 700 salariés de la compagnie. Un vote, un référendum. La question, êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé mi-avril? Hausse de salaire de 5% sur 4 ans, dont 2% cette année. Résultat de ce référendum d'entreprise, le 4 mai. Alors si le non l'emporte, le PDG, Jean-Marc Janaillac, a dit « je m'en vais ». Et si le oui l'emporte, il devra faire signer par les syndicats un texte qu'il rejette les syndicats. Bref, rien ne sera réglé. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond à Air France? On attend vos questions. Que représente pour vous Air France? Plus généralement, qu'attendez-vous d'une compagnie aérienne? La compagnie Air France répond-elle aux exigences, aux attentes des passagers de plus en plus nombreux? Ces dernières années, on n'a jamais autant pris l'avion. Le standard 01 45 24 7000 et le site de l'émission franceinter.fr.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Un premier appel, c'est Thierry. Bonsoir Thierry.
Bonsoir. Dans le groupe Air France KLM, Air France fait la grève et perd de l'argent. KLM ne fait pas grève et gagne de l'argent. Pourquoi ?
Thierry, on va vous répondre. Je vous présente nos invités ce soir dans ce studio. Jean-Claude Baumgarten, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien directeur général adjoint d'Air France et ancien président directeur général du Conseil mondial du voyage et du tourisme. Arnaud Doll, bienvenue. Vous êtes steward et délégué de l'UNSA PNC, c'est-à-dire le personnel navigant commercial. Et puis en ligne avec nous, Michel Polaco. Bonsoir Michel.
Bonsoir Pierre.
Il est journaliste, Michel Polaco, bien sûr, vous le savez, spécialiste de l'aéronautique à Radio France. Alors vous avez entendu cette question de Thierry dans le groupe Air France. Air France perd de l'argent, KLM en gagne. Pourquoi il y a cette grève chez Air France? Michel Polaco, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais j'en pense que c'est bien triste qu'Air France traverse une nouvelle fois une période de troubles comme on voit en ce moment. Et hélas, pour suivre la vie de cette compagnie depuis plus de 30 ans, j'ai vu déjà des périodes de ce genre-là. Air France est une compagnie qui est dirigée d'une manière assez anachronique. Elle a un actionnaire de référence qui est l'État, qui aujourd'hui d'ailleurs n'en a plus que 15% des parts et qui quand même intervient souvent assez mal et mal à propos par rapport à la situation de la compagnie. On se souvient qu'en 1993, le président Attali, à l'époque, qui avait lancé une réforme car la compagnie traversait une très grosse crise, avait été lâché par le pouvoir. C'est Christian Blanc qui lui avait succédé en 1993. Et là, le gouvernement avait été obligé de le soutenir et avait rapporté 20 milliards de francs pour soutenir Air France, qui était quasiment en faillite. Et puis, trois ans après, en 1997, lorsque Christian Blanc avait remis les comptes en ordre, lorsqu'il avait, après un référendum, réussi à rassembler l'ensemble du personnel sur un grand projet d'entreprise, eh bien, le gouvernement l'a laissé tomber et a nommé un dirigeant, qui est Jean-Cyril Spinetta, qui héritait d'une compagnie qui était en bonne santé, mais dont le gouvernement ne voulait pas la privatiser. Et deux ans après, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a privatisé Air France. Donc, vous voyez, encore une fois, la position du gouvernement, du pouvoir, de l'actionnaire majoritaire à l'époque et de référence maintenant, qui est toujours très illisible. Et en face de ça, des organisations syndicales qui essayent de tirer leur épingle du jeu et de tirer les meilleurs profits. Alors c'est vrai que parfois il y a des décalages totalement incompréhensibles et c'est vrai qu'en ce moment, cette compagnie qui est à peine remise à flot et c'est grâce surtout à la baisse du prix du pétrole, est une compagnie qui a quand même beaucoup de dettes et qui a pour priorité de payer ses dettes et de s'adapter au paysage qui est évolue considérablement. Et c'est vrai que cette réclamation de remise à niveau des salaires par rapport à l'inflation des personnels paraît à tout le monde assez anachronique.
Alors, il y a les auditeurs qui nous écrivent qui ne sont pas d'accord avec ce que vient de dire Thierry. Ce courriel que je vous lis, c'est Gérard qui nous dit « C'est insensé, Air France a fait 590 millions d'euros de bénéfices en 2017, le meilleur chiffre de son histoire, et les pilotes qui sont quand même bien payés lancent des grèves qui coûtent une fortune à la compagnie. C'est vraiment insensé. » Réaction d'Arnaud Doll, qui est donc syndicaliste, steward et délégué de l'UNSA, personnel navigant commercial à Air France.
Oui, effectivement, je voulais apporter des précisions. L'entreprise Air France gagne de l'argent et on ne gagne pas de l'argent que cette année, puisque en 2016, nous avons réalisé un bénéfice de 218 millions d'euros et cette année, le bénéfice s'élève à 590 millions d'euros. Oui. Donc, on n'estime pas qu'on est dans une entreprise qui perd de l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui aimeraient réaliser de tels bénéfices. Et concernant la dette, nous avons réduit notre dette. Nous étions à une dette de 3 milliards en 2014 et nous avons aujourd'hui réduit la dette à 806 millions d'euros, ce qui est énorme. Alors, effectivement, nous n'estimons pas que notre entreprise est dans si mauvaise position. Alors, certes, le prix du pétrole a baissé, mais il y a eu aussi des efforts considérables qui ont été faits par les salariés, qui ont contribué à augmenter leur productivité de 20% au travers de deux plans successifs. Le premier, mis en place par De Juniac, Monsieur De Juniac, au travers du plan Transform 2015 oui. Et le dernier plan de M. Janaillac, Trust Together. Donc aujourd'hui, il y a eu des blocages de salaire depuis 2012, donc il n'y a plus d'augmentation en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Et aujourd'hui, on nous propose, enfin on nous a fait l'affront de nous proposer 0,6% après toutes ces années de blocage et après un bénéfice historique.
Jean-Claude Baumgarten, je rappelle, ancien directeur général adjoint d'Air France. Donc, il ne faut pas se méprendre. Ce premier appel, c'est une erreur. Air France perd de l'argent. C'est faux. La compagnie fait de gros bénéfices.
Non. Soyons clairs.
Alors, soyons clairs.
D'abord, 580 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 25 milliards et quelque chose, ce n'est pas une performance exceptionnelle. D'autant plus que si on la compare à nos deux grands concurrents qui sont Lufthansa et British Airways. Lufthansa 1,6 milliard et British Airways, le groupe, 2 milliards. Donc si vous voulez, il y a déjà... De quoi s'agit-il enfin dans tout ça ? C'est que le transport aérien, comme le tourisme dans le monde, comme les voyages, va augmenter dans les années qui viennent. Il faut donc que les entreprises assainissent leur gestion pour pouvoir faire face à cette demande accrue. Et c'est ça le fond du problème.
Et ça veut dire quoi, faire face à une demande accrue ? Acheter des avions ?
Acheter des avions.
Former des pilotes ?
Oui, bien sûr. Mais tout ça, ça fait partie d'une exploitation normale d'une compagnie aérienne. Mais être prêt à acheter des avions et faire face à la demande. La nature a horreur du vide. Et l'aviation a horreur du vide.
On n'a jamais autant pris l'avion qu'en ce moment.
C'est fou. Oui. C'est fou. On prévoit, dans les 30 années qui viennent, une explosion du trafic aérien. Il faut donc que la France et Air France soient prêtes à faire face à cette demande. Et c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'entreprise n'arrive pas à faire sa révolution d'organisation.
Et ce serait quoi la révolution d'organisation, selon vous, la bonne ?
C'est très simple. Il faut rationaliser. Les dépenses de personnel sont trop élevées. Voilà. Si vous regardez le bilan, si vous comparez les bilans, si vous faites des pourcentages...
Les dépenses de personnel à Air France sont plus élevées que dans d'autres compagnies
que l'on cite,
British Airways, Lufthansa...
Oui. Alors, soit vous augmentez le chiffre d'affaires considérablement, mais il faut des avions, soit vous faites des efforts dans ce sens.
Michel Polacou veut intervenir. Michel ?
Oui, effectivement, je crois qu'il faut voir, on peut parler de British Airways et de Lufthansa, comme vient de faire Jean-Claude Baumgarten, mais c'est vrai que Air France ne joue pas de manière égalitaire avec ses concurrents, parce qu'en France, les charges sur l'emploi sont énormes, et en plus, il y a des charges comme certaines taxes, dont la fameuse taxe Chirac, qui sont des taxes qui alourdissent évidemment beaucoup les frais de la compagnie.
Michel, juste puis, c'est vrai un point, la taxe Chirac, rappelez-nous ce que c'était exactement.
C'est une taxe de solidarité qui a été a priori créée pour l'ensemble des compagnies aériennes européennes et qui finalement s'applique exclusivement à certaines compagnies qui se posent en France et en particulier Air France bien sûr, puisqu'elle part et revient systématiquement de France. Mais si vous voulez, ce sont des taxes qui s'ajoutent les unes aux autres et qui, si on y rajoute les charges sociales qui, vous le savez, en France sont plus importantes qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, font que Air France joue difficilement. Il y a une chose que je voulais dire aussi, il ne faut pas toujours parler de la compagnie à travers ses pilotes. Les pilotes, c'est très important, évidemment. Il n'y a pas d'avion sans pilote, heureusement, aujourd'hui. Mais les stewards, les hôtesses, tous les personnels au sol, tous les mécaniciens, tous ces gens-là sont des gens qui ont évidemment un rôle extrêmement important à jouer. Et c'est vrai que leurs revenus sont peu comparables avec ceux des pilotes. Et c'est pour ça que cette grève, actuellement, elle est relativement anachronique et difficile à comprendre. Parce que d'un côté, il y a des gens qui ont beaucoup à y gagner en pourcentage et d'autres beaucoup à y gagner en montant, si vous voulez. Et ce n'est pas tout à fait la même chose.
Arnaud Doll, steward et délégué de l'UNSA Air France.
Oui, mais effectivement, je voulais rebondir par rapport au fait de dire qu'il faut qu'on s'adapte et que la révolution doit avoir lieu. Nous, on estime que la révolution a eu lieu. On a quand même perdu entre 2011 et 2017 10 040 emploi à Air France. Côté PNC, on a perdu 1670 emplois. Donc, l'effort de productivité, on produit toujours la même chose avec 1700 personnes en moins. Donc, la productivité, on l'a faite aujourd'hui. Maintenant, effectivement, nous sommes confrontés aussi à des charges et on nous compare souvent à KLM. Et KLM bénéficie énormément de l'alliance qu'il y a Air France-KLM parce que il est plus intéressant de développer le trafic chez KLM parce que les charges sont inférieures et du coup, ça vide un petit peu le Air France. Donc, dans le groupe, c'est intéressant, mais pour Air France même, on n'est pas gagnant.
Pierre est à Golfe-Juan. Bonsoir Pierre, vous écoutez l'émission, vous souhaitez y participer, c'est le moment.
Oui, bonsoir. Je voulais juste réagir aux propos de votre invité ancien responsable chez Air France. Je veux dire, si on écoute sa logique, il faut que tous les emplois s'alignent sur des salaires les plus bas, quoi. Je veux dire qu'il faudrait qu'Air France devienne low cost. Bon, alors, je suis pas un spécialiste de l'aéronautique, mais c'est un propos qui me choque un petit peu. Ma question est la suivante. Que des gens bien payés se mettent en grève, n'y a-t-il pas un ressenti des salariés en désaccord avec l'évolution de leur entreprise? Parce que je pense que c'est assez symptomatique d'un malaise et d'un mal-être au travail. Alors, quel que soit le montant de sa rémunération, si à un moment donné, les choix qui sont faits dans une entreprise ou qu'on ne voit pas où on va, chacun est inquiet et je pense que dans la grève, et une grève que je soutiens par principe, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je ne sais pas, à mon avis, de mon point de vue, uniquement un ressenti salarial.
Merci Pierre. Alors, réaction Jean-Claude Baumgarten. Pierre disait que vous voulez que la compagnie Air France s'aligne sur le low cost à tout point de vue.
Oui, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vous dis simplement que dans le transport aérien, comme dans toutes les industries, il faut s'aligner sur la concurrence. Il faut être aussi performant que la concurrence. Alors, je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait que tout ce qui est taxe en plus sur le transport aérien, que ce soit les frais d'aéroport, que ce soit la fameuse taxe Chirac, etc., ça, ce sont des choses, mais ça, c'est un combat commun qu'il faut engager. En revanche, les low cost, puisque vous en parlez, c'est certainement un élément du transport aérien qui est en train de se développer d'une façon vertigineuse. Je ne dis pas qu'Air France doit devenir un low cost, mais je dis qu'Air France doit avoir un département low cost.
Mais il y a la compagnie Transavia.
Oui, mais il faut le développer.
Oui. Et pour ça,
il faut de l'argent.
Il faut de l'argent. Michel Polaco, vous avez entendu la question de Pierre, il faisait allusion, et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de courriels. Il disait voilà, que des gens bien payés fassent grève, ça montre qu'il y a certainement un grand malaise dans une entreprise. Et évidemment, on a reçu plein de courriels concernant le salaire des pilotes de ligne. Juste un point, Michel, rappelez-nous, un pilote de ligne à Air France, un commandant de bord, il gagne combien ? Par mois.
Ben, c'est variable selon son ancienneté, oui, et la taille de l'avion sur lequel il vole.
Mais en gros,
si vous voulez, un jeune copilote à Air France démarre aux alentours de 4 500-5 000 euros brut par mois. Mais un vieux commandant de bord instructeur sur le plus gros avion de la compagnie, c'est-à-dire l'Airbus 380, peut terminer avec un salaire de plus de 250 000, 300 000 euros par an. Mm-hmm. Voilà, donc vous voyez, ça fait des revenus qui sont assez importants. Voilà, ils sont liés à la connaissance, à l'expérience, et il y a un prix du marché aussi.
Et les questions des auditeurs sur le site, les pilotes allemands, anglais ou américains, sont-ils mieux payés et travaillent-ils plus que les pilotes Air France, Michel Polaco.
Alors c'est variable, effectivement, on peut dire qu'en France, autrefois, les pilotes travaillaient moins, étaient beaucoup mieux payés. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait assez faux de le dire, car la productivité, en particulier à Air France, parce que les autres compagnies avaient souvent déjà une bonne productivité, la productivité en particulier à Air France a considérablement augmenté. Moi, je me souviens d'une époque où bien des pilotes de ligne volaient 450 heures par an. Alors 450 heures, ce n'est pas 450 heures de travail, c'est 450 heures de vol, mais aujourd'hui, ils sont tous plutôt aux alentours de 650-700 heures, et même certains dépassent ces plafonds sur certains secteurs, comme les Boeing 787, qui viennent d'arriver dans la flotte et pour lesquels il a fallu trouver d'urgence des pilotes. Et puis, on est en période de crise. Hein. En ce moment, on manque de pilotes. Alors, c'est vrai que les compagnies comme EasyJet, Ryanair, etc., se font piquer leurs pilotes par British Airways, par Air France, par Emirates, par Lufthansa, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se bat plutôt pour aller dans des compagnies majeures comme Air France, parce que c'est vrai qu'elles payent clairement mieux et dans de bonnes conditions. Vous êtes pilote chez Ryanair, vous êtes auto-entrepreneur et vous vendez vos services à travers votre société et c'est vous qui assurez à peu près tout votre confort de vie. Vous êtes pilote à Air France, vous avez effectivement une garantie considérable, déjà tout ce qui est social en France, et puis deuxièmement, la garantie de cette compagnie qui paye bien et qui offre des conditions de travail qui sont très bonnes, et notamment, n'oublions jamais que la première chose la plus importante dans les conditions de travail, c'est la sécurité. Et c'est vrai que c'est une compagnie qui ne fait pas d'impasse sur la sécurité.
Jean-Claude Baumgarten.
Oui, je crois que Michel Polakoff a tout à fait raison. La productivité du personnel navigant technique d'Air France a considérablement augmenté. 400 à 650 heures par an. Ça, c'est remarquable. Ce qui est important, c'est que dans l'avenir, il y aura un manque de pilotes internationaux. Donc, on ne pourra pas, j'allais dire, recruter aussi facilement qu'on le peut maintenant. Et c'est un des challenges du futur, ça.
On va aller au standard. Philippe nous appelle. Philippe à Genève. Bonsoir, Philippe.
Allô, bonsoir. J'avais une question en fait qui m'est revenue souvent quand je prenais l'avion et qui est relative à Air France en fait et à ces grèves assez quand même pas récurrentes mais qui arrivent souvent. C'est que je pense que les revendications sont probablement étayées, justes ou autres et voilà. Mais quand on travaille à l'étranger, qu'on travaille dans des entreprises qui ont beaucoup de gens de différentes nationalités et que vous prenez de temps en temps l'avion pour aller soit en France, soit en Angleterre, soit transatlantique, souvent j'ai eu des commentaires même de pilotes de ligne hein, dans les avions, les cockpits, en arrivant, EasyJet, en disant en arrivant à Genève, on va arriver à l'heure aujourd'hui, il n'y a pas de crève en France. Bon, souvent c'est les aiguillères du ciel, mais par exemple en prenant des vols, j'étais en ancienne compagnie où on avait à un moment donné reçu des communications disant quand vous prenez des vols transatlantiques, ne passez pas par la France ou par Paris. Mmh. Évitez ce genre de choses. Donc, et en fait, et sans parler des collègues anglo-saxons ou autres, qui ont toujours ces choses, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Et ma question, en fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'avoir un dialogue ou autre, ou des revendications qui n'affectent pas l'image de la compagnie. Parce que quand on est français, que Air France est quand même une compagnie Saint-Exupéry, etc., et qu'on se retrouve toujours à discuter avec des gens étrangers, des problèmes de reliabilité ou d'Air France, c'est à la fois concernant et à la fois blessant pour un Français comme moi.
Merci Philippe. Réponse d'Arnaud Doll, steward syndicaliste Air France, délégué de l'UNSA, des personnels navigants commerciaux.
Alors effectivement, oui, bon, c'est déplorable pour l'image qu'il y a un conflit. On est tous conscients qu'on n'améliore pas l'image d'Air France. Mais maintenant, on est arrivé dans des situations où, comme le disait l'auditeur précédent, il y a peut-être un malaise plus profond à Air France. Et aujourd'hui, peut-être que la stratégie mise en place par le président n'est pas du tout suivie. Et donc, du coup, il y a des remous. Maintenant, quand on nous compare avec Lufthansa ou British Airways, je voudrais quand même rappeler que Lufthansa a été en grève pendant... a fait certainement 17 jours de grève il y a 2 ans ou 1 an et a obtenu 5% d'augmentation. Et on était exactement dans le même scénario, c'est-à-dire que l'entreprise avait dégagé un bénéfice d'un milliard, parce que tout à l'heure, on a parlé des bénéfices de Air France, mais là, on parle du bénéfice du groupe Lufthansa, mais le groupe Air France KLM a dégagé 1,5 milliard. Donc, bon, il faut quand même toujours comparer les choses qui sont comparables. Maintenant, pour l'image, bon, bah, effectivement, mais nous, on n'a pas tellement d'autres solutions que lorsqu'on tombe sur une direction qui refuse de négocier, parce que l'intersyndicale est toujours ouverte à la négociation. Et je pense que le choix qui a été fait par l'entreprise d'imposer un référendum, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, parce qu'on va arriver dans une situation où, pour nous, le président semble introduire de la démocratie, mais la démocratie en France, elle passe par les représentants des salariés et nous avons été élus démocratiquement. Voilà.
Jean-Claude Baumgarten, ancien directeur général adjoint d'Air France, ce référendum organisé, c'est une procédure assez surprenante, ça fait d'une façon, une épreuve de force.
Pas vraiment. C'est, mettez-vous à la place du dirigeant, il n'arrive pas à négocier avec les syndicats.
Mais ça réglera rien.
Mais le dialogue n'aboutit pas.
On avait donc avec, on tente avec, un coup de force.
Avec monsieur, mais non, mais avec monsieur Blanc, nous avions fait un référendum aussi, et qui avait été suivi et qui avait été accepté par le personnel. Donc je pense que l'entreprise, ça je suis d'accord, a un problème de communication, a un problème de confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille aller jusqu'à faire des grèves.
Mais ce référendum, c'est pas une façon...
Vous savez, moi, j'ai habité à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé et je voyage toujours. Et je suis d'accord avec ce que l'auditeur disait tout à l'heure. C'est invraisemblable qu'on dise « Ah oui, mais je ne prends pas Air France parce qu'il y a des grèves. » Alors, il faut quand même régler ce problème. Mais je disais et pas tourner en rond en disant « mais non, c'est de la faute de ceci, cela ». Il faut s'asseoir autour d'une table et discuter.
Mais ce référendum, c'est un coup de force, c'est pas une façon de dire « on en a assez, nous, la direction des discussions avec les syndicats, vous êtes minoritaires et on va maintenant consulter l'ensemble du personnel, plus de 40 000 personnes, et là on aura vraiment un état de l'opinion au sein de la compagnie. Pourquoi... Ça crée pas un bon climat. Hein.
Mais pourquoi serait-ce un coup de force ? Vous pouvez consulter le personnel.
On va aller au standard. Les appels, voici Jacques. Jacques dans le Loir-et-Cher. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
C'est à vous.
J'ai longtemps vécu à l'étranger aussi, notamment à Genève, comme Philippe tout à l'heure. Et bon, j'ai vécu l'époque où Swissair a déposé son bilan et où Luxair est devenu Swissair Line pour reprendre un fonds de commerce qui n'était pas encore complètement dilapidé. Au rythme où vont les choses, il faudrait peut-être envisager qu'il y a une société qui reprenne l'activité d'Air France et qui se débarrasse de la caste des gens qui vivent hors du monde et qui mènent la compagnie au désastre. Quand je vois tous mes collègues de Washington qui ne veulent plus prendre Air France, je suis d'abord un peu... aux Français en tant que Français, mais très pessimiste sur l'avenir.
Michel Polaco, et on a des courriels, je vous lis celui-ci de Marine qui nous dit « Y a-t-il un risque que l'on vende Air France une cession de la compagnie comme cela est en cours avec Alitalia ?»
Non, je crois qu'on n'en est pas là. La situation d'Air France aujourd'hui n'est pas la situation d'Air France en 1993. Mais il ne faut pas oublier que dans le transport aérien, les choses vont très très vite. C'est comme les orages en matière de météorologie. Et c'est vrai que les fondamentaux d'Air France ne sont pas très bons, que cette entreprise est en pleine restructuration depuis plusieurs années, que le dialogue social dans cette entreprise ne fonctionne plus depuis presque une vingtaine d'années et que par conséquent, c'est une entreprise qui est à la merci d'un événement extérieur majeur. Imaginez une nouvelle épidémie comme on en a vu. Imaginez une nouvelle crise comme on a connu la guerre du Golfe. Imaginez une augmentation forte du prix du pétrole. Et en très très peu de temps, Air France repasse dans le rouge. Aujourd'hui, elle a déjà quand même une charge importante pour rembourser sa dette de plus de 200 millions d'euros par an. C'est pas rien du tout. En deux ans, trois ans, Air France peut se retrouver très très mal. Quant au référendum dont vous parliez il y a un instant...
Oui.
Il n'a rien à voir, ce référendum, avec celui qui avait été lancé en 1994, je crois, par le président Christian Blanc à l'époque. À l'époque, c'était un projet complet pour la compagnie. La question d'abord posée était, est-ce qu'on dépose le bilan, est-ce qu'on refait une nouvelle compagnie, comme ça s'est fait avec Swissair et Swiss. Et le choix de Christian Blanc, et sans doute de l'actionnaire à l'époque, a été finalement de maintenir Air France. Et donc, c'est toute l'organisation de la compagnie qui a été mise, je dirais, aux voix. On n'a pas juste dit, voilà, telle négociation fait l'objet d'un référendum. Alors que là, si vous voulez, ce référendum a ce défaut terrible, c'est que c'est une épreuve de force, un véritable quitte ou double, et que si d'aventure le résultat n'est pas celui qui est espéré par l'actuelle compagnie, direction de la compagnie, bon, la direction va s'en aller, et qui va la remplacer, et comment ça va se passer, et comment la situation d'Air France va s'améliorer. Vous voyez, ce n'est pas obligatoirement une issue, ce référendum. C'est quand même toujours ce qui se fait depuis quelques années dans cette entreprise, un affrontement qui parfois est entre les catégories de personnel, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, et qui en tout cas est toujours entre l'actionnaire, la direction, qui sont généralement solidaires, et puis le personnel. Ils ne savent pas se parler.
Arnaud Doll.
Oui, alors clairement, ce référendum est un contournement des organisations professionnelles et de dire que on veut essayer de démontrer que les organisations professionnelles ne sont pas représentatives et que c'est une ultra-minorité qui bloque l'entreprise. Sauf que, bon, il faut quand même se rendre compte que les syndicats ne peuvent pas bloquer l'entreprise si les salariés ne cessent pas le travail. Donc, vu les perturbations que provoquent les arrêts de travail, c'est bien qu'il y a quand même des grévistes et ce ne sont pas les syndicats qui bloquent les avions. On ne se met pas au milieu des pistes pour empêcher les avions de décoller. Maintenant, ce référendum, il faut voir comment il est organisé. Il y a quand même tout de suite la terreur qui est remise en place au niveau d'Air France, où la question qui est posée aux salariés, c'est quand même « dites oui pour l'avenir d'Air France ». Donc en gros, si on dit non, ça veut dire quoi ? C'est que c'est un petit peu la question comme... moi, je n'ai pas connu Christian Blanc, mais on en parle encore aujourd'hui.
Mais vous dites la terreur.
C'est toute la com qui est développée par la direction qui nous garantit. Même le Premier ministre nous a menacé en nous disant attention, si vous dites non, il va falloir attacher votre ceinture parce que vous allez passer des grosses turbulences. Bon, pour moi, c'est pas de la démocratie. Ça, la démocratie, c'est pas tu dis oui ou je te zigouille. Voilà.
Sur ce point, Jean-Claude Baumgarten, on sent bien qu'effectivement, comme le disait Michel Polaco, social à Air France, c'est très difficile. Hein.
C'est très difficile. Moi, je suis de l'équipe Blanc, je suis parti avec lui quand on n'a pas eu l'autorisation de privatiser. Effectivement, on avait un projet. Mais ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'il y a des gens responsables des deux côtés. Pourquoi ne se mettent-ils pas autour d'une table et discutent sérieusement ?
Ben, c'est le problème.
Hein ? Les syndicats disent le management ne veut pas discuter. Le management fait un référendum pour avoir l'opinion du personnel. Je pense que c'est regrettable alors que la concurrence est là, alors que les prix du pétrole va augmenter, on le sait, alors que les taux d'intérêt vont augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas de gens responsables là-dedans dans tout ça ?
Un mot rapide, Arnaud Dole, et on
alors, je voulais juste répondre parce que la dernière communication qui a été faite à l'ensemble des salariés par tous les organisations, par l'ensemble des organisations syndicales qui appellent à la grève, et le dernier message qui a été envoyé, c'est pour sortir d'un conflit, il faut se mettre d'accord, donc il faut négocier. C'est ce que proposent les organisations professionnelles en faisant plusieurs propositions. Elles ont démontré que tous les curseurs ont été négociables et le sont encore. Donc ce n'est pas un discours qu'on tient, c'est quelque chose qui a été publié dans toute l'entreprise et c'est un discours de vérité.
Marc à Saint-Ouen, bonsoir Marc, merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir. Je voudrais revenir en fait sur la question des salaires. Alors j'ai bien entendu là depuis le début de l'émission qu'il y avait effectivement eu un progrès dans la productivité des personnels, notamment par la baisse des emplois, si j'ai bien compris. Mais on n'a pas eu pour le moment, pour essayer d'éclairer le débat sur des faits, vraiment un comparatif précis des salaires moyens, que ce soit des pilotes mais aussi des personnels navigants commerciaux hors pilotes, un comparatif précis des salaires moyens entre Air France et les autres compagnies étrangères. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de chiffres ?
Michel Polaco.
Écoutez, c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail. Moi, j'ai regardé ces chiffres récemment. Je dois dire qu'il n'y a pas une différence considérable entre ce qui se passe chez Lufthansa, British Airways, Suisse, Emirates, Qatar Airways, etc. C'est-à-dire les Singapour, Qantas, enfin les grandes compagies majeures.
Les salaires se ressemblent.
Oui, les salaires se ressemblent, très franchement. Alors, il y a des avantages sociaux, il y a une certaine productivité, il y a le poids de l'encadrement qui peut être très lourd à Air France. Il faut voir qu'il y a un poids de structure dans une compagnie comme Air France qui est considérable. Mais globalement, si vous voulez, les salaires sont élevés par rapport à la moyenne des salaires, par exemple en France, dans la plupart des métiers. Ce sont des bons salaires, ce sont les plus bas salaires sont des salaires relativement élevés. En tout cas, jusqu'à maintenant, étaient des salaires relativement élevés. Mais ce ne sont pas des salaires scandaleux et parce que ce sont des salaires qui correspondent à un prix du marché. D'ailleurs, c'est très simple. S'ils ne correspondaient pas au prix du marché, ben vous verriez l'évasion des personnels vers les entreprises qui manquent de personnel, puisque aujourd'hui, on en cherche dans tous les métiers de l'aérien du personnel. Il y a eu 4 milliards 100 millions de passagers l'année dernière. La progression a été de 6,5%, ce qui est unique. Hein. C'est, je crois, la première année depuis 30 ans on voit une telle progression du trafic aérien. On prévoit encore une très grosse progression. Ça veut dire qu'actuellement, le marché de l'emploi dans le monde de l'aérien est très important. Donc, si vous voulez, s'il y a des gros décalages, ils sont très, très vite visibles.
Hein. Gilles à Grenoble. Bonsoir, Gilles.
Oui, allô ?
C'est à vous. Vous êtes sur l'antenne. On est content de vous recevoir et on écoute votre question, votre remarque.
Ben merci, content aussi de pouvoir intervenir sur votre antenne. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je voulais vous demander, alors que les salariés ont fait d'Air France, ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années, ils ont consenti à des diminutions de leurs revenus, pourquoi aujourd'hui ne tape-t-on pas dans les dividendes des actionnaires pour assurer la pérennité et la rentabilité de l'entreprise ? Et une deuxième question accessoirement. Comment se fait-il qu'on parle toujours de charges sociales quand il s'agit ou de charges quand il s'agit des salaires et de choses qui en fait s'appellent des cotisations sociales ? Ne devrait-on pas plutôt rappeler aux gens que les cotisations sociales versées par les employeurs et les salariés, c'est du revenu créé par le travail et qui en même temps finance du travail ou du revenu différé pour des gens qui ne peuvent plus travailler. Merci.
Mais parfait, Gilles. Jean-Claude Baumgarten, Gilles disait il faut taper dans les dividendes des actionnaires.
Oui. Alors d'abord, il faut avoir des dividendes. Et ce que je disais tout à l'heure à l'auditeur précédent, c'est que les 580 millions d'euros de bénéfices, c'est rien du tout comparé à nos concurrents. Et il n'y aura vraisemblablement pas de dividendes de distribuer. Et tout ça doit être alloqué à l'investissement. Il faut savoir que cette compagnie doit se préparer à l'avenir. Il y a certainement un manque de dialogue, c'est vraisemblable. Mais ce dialogue, il faut le reconstituer. Ce dialogue, il faut qu'il soit ouvert, un peu comme on faisait avec Christian Blanc. Et ça passe.
Mais si je vous comprends bien, vous dites, bon, très bien, on peut peut-être augmenter les salaires un petit peu, pas autant que ce que souhaitent les syndicats, parce qu'il faut garder de la réserve, de l'argent pour les investissements, sinon Air France ne sera pas à la hauteur Mais de la concurrence.
Mais bien sûr.
Bon, et ça, Arnaud Doll.
Oui, alors déjà, j'ai pas tout à fait la même information, parce que pour les actionnaires, ils ont un gain de 4 à 5% minimum. Donc nos revendications sont excessives, mais a priori, c'est tout à fait normal pour d'autres revenus. D'autre part, je voulais quand même aussi revenir sur le coût des PNC, parce que bon, on a parlé des salaires des pilotes, mais bon, on parle toujours dans cette quand on parle d'Air France, on parle des pilotes, mais il n'y a pas que des pilotes. Et les salaires, par exemple, pour les gens que je représente, les hôtesses ou les stewards, un salaire d'embauche, c'est 1 796 € sur moyen courrier, c'est là où commence un PNC habituellement, et 1 909 € brut. Sur long courrier. Donc, il faut savoir que dans ce métier où on vous travaillait de nuit, oui, effectivement, c'est un petit peu supérieur, mais avec des contraintes qui sont largement plus compliquées à gérer qu'un métier lambda. D'autre part, la cherté, effectivement, que l'on nous reproche aujourd'hui par rapport, ce ne sont pas les salaires de chaque individu qui sont particulièrement élevés ou excessifs par rapport à la concurrence comme Lufthansa ou British Airways, mais c'est la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a supprimé les embauches à Air France depuis plusieurs années et il n'y a plus d'équilibrage, c'est-à-dire que l'équilibrage qui se fait naturellement entre les anciens qui quittent l'entreprise, les gens qui évoluent dans les salaires et les jeunes, nous n'avons plus de jeunes à Air France depuis un certain temps et nous sommes un petit peu effectivement dans la même situation que lorsqu'il y avait Monsieur Christian Blanc, où la population commence à être vieillissante et on a un besoin urgent d'embauche. Et le problème qu'on a avec M. Janaillac, c'est qu'à l'issue du plan Transforme, qui avait été le pacte qui avait été fait avec les syndicats, c'était de donner de l'embauche. Et cette embauche, elle n'a pas été faite en Air France. M. Janaillac a créé une entreprise June pour nous priver de cette embauche.
Michel Polaco, il nous reste une minute. Cet auditeur, Gilles, disait, vous parlez des charges très lourdes qui pèsent sur Air France, mais ce sont des cotisations sociales. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Non, je réponds qu'effectivement, Air France a des charges lourdes, c'est indiscutable, plus lourdes que ses concurrents. Et deuxièmement, c'est une compagnie qui a pour une partie sa flotte qui est assez vieillissante, qui est en pleine réorganisation entre June, Hop, Transavia, Air France la compagnie, qui doit payer ses dettes et qui doit prévoir les aléas. Et une compagnie qui, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, n'a pas versé de dividendes l'année dernière à ses actionnaires. Et je crois qu'elle n'en a pas versé pendant 2 ans ou 3 ans.
Exactement.
Donc voilà, c'est absolument certain que cette compagnie aujourd'hui a une priorité, c'est de survivre. Et que pour survivre, il faut absolument qu'elle soit capable de se maintenir à flot en termes de matériel. Évidemment, en termes de personnel, il faut qu'elle arrive à les retenir et à les encourager. Et puis, en termes d'organisation, parce qu'il faut qu'elle en sorte. Aujourd'hui, c'est quand même une compagnie qui est en travaux.
Merci à nos invités au téléphone sonne ce soir, Michel Polaco, Arnaud Doll et Jean-Claude Baumgartner. Merci, bon week-end.